L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Salut, c'est Steven Jambot. Vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. Mi-mai 2024, j'étais dans la petite ville de Carleton-sur-Mer, au Québec, où se tenait un festival international de journalisme. Une des tables rondes qui était organisée a débuté par une formule de reconnaissance des Premières Nations et des territoires traditionnels.
Bonjour, au nom du Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer, dans cette journée d'ouverture et de collaboration, nous tenons à reconnaître que nous vivons sur le territoire non cédé des Mi'kmaq.
Le territoire non cédé des Mi'kmaq, car en mettant les pieds en Amérique du Nord, les Blancs n'ont pas débarqué dans des territoires inoccupés. Au Canada, on compte aujourd'hui plus de 630 communautés autochtones, réparties en 50 nations, dont 11 dans le seul Québec. Chacune a sa langue, son histoire. Pour raconter les nouvelles et les défis de ces communautés, un site internet a été créé en 2016 par Radio-Canada, le média de service public en langue française du Canada. Sa mission, dévoiler, expliquer et comprendre les réalités autochtones. En Gaspésie, j'ai rencontré l'un des journalistes qui compose l'équipe de ce site qui a pour nom Espace Autochtone.
RFI.
Bonjour Jérôme Guilcouture.
Bonjour.
Qu'est-ce que cela veut dire concrètement d'être reporter spécialisé en questions autochtones ?
Ben, je pense en fait que c'est plutôt un titre qui est lié à l'institution de Radio-Canada. Là. Donc le terme « reporter spécialisé » veut dire quelque chose qui est différent d'un reporter ou d'un journaliste. Moi, c'est en question autochtone, étant donné qu'à Espace autochtone, c'est vraiment ce sur quoi on se spécialise à tous les jours. Je pense pas que c'est parce que je détiens nécessairement une grande spécialisation en questions autochtones. C'est plus un titre là pour définir en fait ce sur quoi je travaille. Et aussi, évidemment, il y a une partie qui est de reconnaître le bagage que je peux apporter, les connaissances que je peux avoir sur les milieux autochtones.
Oui, parce que tu ne l'as pas précisé d'emblée, mais tu es toi-même issu d'une nation autochtone, d'une communauté Innu, précise-nous.
Oui, c'est ça. Je suis Innu de Machteuillatz, qui est à côté de Roberval, au Lac-Saint-Jean. J'ai pas grandi là, personnellement, mais toute ma famille y est, surtout du côté de ma mère. Mon père est québécois, un père québécois et une mère Innu.
Le site Espaces autochtones, au pluriel, pour lequel tu travailles, c'est un site de Radio-Canada pour, je cite, « dévoiler, expliquer et comprendre les réalités autochtones ». En quoi est-ce important, à ton avis, d'avoir un site, un espace dédié pour ces questions-là?
Mais je crois en fait que dans le meilleur des mondes, on n'aurait peut-être pas besoin d'exister en fait parce que les médias traditionnels, que ce soit tu sais, les grands médias ici au Québec comme Radio-Canada, TVA, La Presse, Le Devoir et tout ça, dans un monde idéal, seraient en mesure, parce qu'ils auraient la connaissance et les contacts et tout ça, ils seraient en mesure de traiter de manière efficace des questions autochtones, mais la réalité n'est pas là. En fait, là, la plupart des gens au Canada ne connaissent pas vraiment non seulement l'actualité des communautés autochtones, mais même leur histoire, leur existence dans souvent des cas, alors qu'ils font partie, ils devraient faire partie du débat public, tout simplement parce qu'ils ont des droits, ils font partie de la sphère publique, et en fait, leur destinée ou ce qui se passe leur communauté sur leur territoire, ben ça affecte la communauté québécoise et canadienne en général. Je crois que l'importance, en fait, d'avoir Espace autochtone, c'est justement d'avoir des gens qui vont au fond des choses, qui créent des contacts avec les communautés, parce que c'est des contacts qui sont souvent recréés historiquement, comme plusieurs peuples colonisés à travers le monde, il n'y a pas eu nécessairement une couverture qui est positive de la part des communautés autochtones. Les seules fois où ils étaient mentionnés dans les médias, en fait, c'était pour dire qu'il y avait des gens qui se suicidaient ou qu'il y avait une montée du taux d'alcoolisme ou, tu sais, des gros clichés, alors que, je veux dire, c'est des sociétés qui sont complexes comme les autres, où est-ce qu'il y a des défis, mais il y a aussi énormément de beauté. Et cette couverture historique-là fait en sorte que ça a créé une méfiance avec les communautés. Et une équipe spécialisée comme Espace autochtone doit avoir en fait le temps de recréer ces liens-là. En fait, je dis recréer, mais c'est même de les créer, parce qu'il n'y a jamais eu de vrai lien entre les communautés et les grands médias. Et la spécialisation de l'équipe d'Espace autochtone permet aussi, dans le meilleur des mondes, c'est de comprendre, d'avoir des individus qui sont non seulement sensibles, mais qui sont au courant, qui ont énormément de contacts dans le monde autochtone, parce que tout se parle, tout se dit dans le monde autochtone. C'est un petit monde, mais que les gens ont l'impression qu'il est difficile d'introduire. Mais dans les faits, une fois qu'on a créé quelques contacts de la bonne manière, ça se répand comme une traînée de poudre. On se met à connaître tout le monde assez rapidement. Donc, je crois que c'est ça l'important de cet espace autochtone, c'est d'amener les questions autochtones dans le débat public pour qu'éventuellement, bien, ça soit tout à fait quelque chose de normal et que les gens puissent comprendre que c'est quelque chose de normal.
Quand est-ce que vous considérez qu'un sujet est un sujet pour questions autochtones?
Bien, dès que ça touche en fait une personne autochtone ou une communauté autochtone, on va parler de tous les sujets, comme n'importe quel média. En fait, on va parler de culture, on va parler d'économie, on va parler de politique, on va parler de... Comme j'ai mentionné, c'est des sociétés complexes, c'est des sociétés... chaque nation autochtone, il y a 11 nations au Québec, il y en a plus d'une cinquantaine au Canada... plus de 630 communautés autochtones au Canada, réparties dans 50 nations. Donc, 50 nations qui ont chacune leur langue, leur histoire et tout ça. Donc, évidemment, on manque vraiment pas de choses à parler. Moi, j'étais pas là au départ. Ça a été fondé en 2016, Espace autochtone. Mais mon rédacteur en chef, Suleiman Melali, dit toujours, au départ, les gens, au sein même de Radio-Canada, disaient « Mais de quoi vous allez parler? » Puis depuis ce temps-là, on est obligé d'essayer d'aller chercher plus de budget parce qu'on n'est même pas proche d'être capable de traiter de tous les sujets d'importance et d'intérêt public qui se déroulent au Canada.
Jérôme Guilcouture, dans les médias, on se pose souvent la question de la cible, de savoir qui nous lit ou déjà qui l'on vise en matière de public. Avez-vous une idée pour Espaces autochtones de Radio-Canada, justement, du public que vous visez et de ceux que vous réussissez à toucher?
Oui, je pense en fait que l'objectif, ça serait de toucher tout le monde, en fait, là, autant les Autochtones que les Allochtones. Ça serait tout simplement d'amener les questions autochtones sur la sphère publique. Donc, que les gens puissent le lire, que les gens puissent en discuter. Mais après ça, c'est sûr que, comme je parlais tout à l'heure, il y a encore une certaine soit une méfiance ou tout simplement un désintérêt parfois aussi de la part des communautés autochtones envers ce qui est produit par les médias traditionnels. Il faut avoir une approche qui est particulière si on veut s'assurer d'aller chercher un lectorat qui ne serait pas traditionnel, un lectorat autochtone par exemple, parce que c'est clair qu'une grande institution comme Radio-Canada, comme Le Devoir, comme La Presse, comme tous les grands médias, en fait, c'est des grandes institutions qui n'ont pas été conçues avec un mode de pensée autochtone du tout. C'est un mode de pensée occidental. Et évidemment, la société occidentale, la société canadienne est responsable de la colonisation et tout ça. Donc, c'est sûr que si les communautés autochtones sentent qu'il y a un fond colonial dans l'approche ou dans la manière que c'est fait ou un fond occidental de pensée et tout ça, ils vont en général se sentir moins rejoints. Je dis en général parce que ça va dépendre, évidemment. Il y a toutes sortes de réalités, toutes sortes de gens. Donc, mon impression, et là, c'est vraiment une impression, je ne suis pas dans les chiffres, dans les statistiques et tout ça, là, mon impression est qu'on est surtout lu par les clientèles allochtones. Mais dans un monde idéal, c'est clair que le but d'Espace autochtone est que tout le monde puisse nous lire et c'est d'amener les questions autochtones sur le débat public. Une chose est claire, par contre, ça, je pense vraiment qu'on réussit à le faire là, pratiquement dans tous les cas, c'est d'amener les voix autochtones dans les articles. Donc, souvent, par exemple, si... en général ou traditionnellement ou historiquement dans les médias, s'il y a un grand sujet d'actualité qui touche une communauté ou une autre, on va avoir le point de vue du ministre, on va avoir le point de vue du Québécois et tout ça, mais on n'aura pas le point de vue de la personne autochtone ou même du chef de la nation autochtone qui est concerné, alors que c'est tout à fait c'est leur territoire qui est concerné, ou si on parle d'une entente économique, de développement et tout ça, historiquement, on va avoir beaucoup plus le point de vue d'un ministre ou d'une personne blanche qui va l'expliquer. Donc ça, je pense qu'Espace autochtone, c'est quelque chose qui est fondamental puis qu'on fait bien aussi, là, c'est d'aller chercher le point de vue des Autochtones.
Donc, si je vous suis, c'est l'idée de ne pas seulement faire des contenus à propos des Autochtones pour les Autochtones, mais de faire aussi des contenus avec les Autochtones.
Oui, c'est ça, en fait. C'est de valoriser les perspectives autochtones dans du contenu qui est journalistique, en fait.
Et quand vous écrivez, quand vous faites des reportages, quels sont les retours des gens que vous rencontrez, et notamment chez les Autochtones? trouve-t-il valorisant, valorisable, important, intéressant votre travail?
Ben, je pense que oui. En général, ils vont trouver ça exactement comme tu l'as dit, valorisant, important. Mais ils vont également être en général assez sensibles quand ils sentent que l'approche avec laquelle on le fait peut être tirée de l'institution ou de la manière classique de faire les choses qui a créé la méfiance historique, là. Et ça, il faut faire attention. Mais en même temps, j'aime pas trop dire qu'il faut faire attention parce que, je veux dire, c'est juste une manière de faire qui est pas nécessairement difficile. C'est plus une approche qu'on doit adopter, qui est tout simplement d'entrer en relation avec les gens comme ils le sont, en essayant d'abandonner ou de laisser un bagage ou une éducation ou tout ça à la maison. On s'en va dans leur société, on s'en va dans leur nation. Il faut les prendre comme ils le sont, avec toute la beauté, avec toutes les complexités, avec tous les problèmes qu'ils vivent. Je dirais qu'une des choses, un des plus grands défis, une des choses qu'on fait à Espace Autochtone, c'est d'avoir le temps d'aller sur le terrain. On sait, on est dans une période qui est plus difficile au niveau financier pour les médias et tout. Et nous, on a la chance, on a une équipe qui a la chance d'aller sur le terrain parce que c'est fondamental. Surtout quand ça touche une communauté qui est éloignée, qui n'est pas en contact fréquent avec les médias. Et une fois sur le terrain, de ne pas, surtout la première fois, de ne pas avoir nécessairement une idée de production absolue, là. Il faut surtout que... Et ça, c'est compliqué, puisque ben souvent, c'est des communautés éloignées, que ça coûte aussi cher aller là, qui est au Québec, que d'aller en Australie, là. Donc, d'aller là, de dépenser ce budget-là et de ne pas avoir une idée de production absolue, ça, ça cadre pas vraiment avec les médias, avec l'idée normalement qu'on se fait du travail journalistique. Donc ça, c'est des choses qui sont à arrimer. Puis je pense qu'on est quand même... évidemment, il y a des discussions un peu sérieuses là-dessus ou un peu complexes là-dessus, là, sur comment on fait rentrer la réalité budgétaire et la réalité des communautés. Comment on arrime tout ça, mais je pense qu'on réussit quand même à faire ça de la bonne manière.
Jérôme Guilcouture, tu es intervenu ici au Festival de Carleton-sur-Mer dans une table ronde intitulée « Comment trouver la voie de la réconciliation ?» Quel rôle, à ton avis, doivent jouer les médias dans tout cela, et notamment un média de service public comme le tien, Radio-Canada ?
Ben, je pense qu'en fait, on a parlé tout à l'heure de l'importance d'une équipe dédiée aux questions autochtones. Réalistement, j'ai pas l'impression que, bon, actuellement, peut-être dans quelques années, ça pourrait être possible, mais actuellement, j'ai l'impression qu'il y a seulement le service public Radio-Canada qui peut se permettre de financer une équipe entièrement dédié aux questions autochtones. En tout cas, c'est mon impression, tout simplement parce que ben c'est sûr que ça coûte assez cher et on est un média qui est financé en partie par l'État et donc on dépend moins de la publicité et des clics, comme on pourrait dire, là, du nombre de vues sur nos articles. Parce qu'il faut se le dire, en général, les articles qui touchent les questions autochtones sont pas nécessairement les plus sexy, là, on pourrait dire. Sont pas ce qui attire le plus grand lectorat au Canada. Et ça, c'est en raison du passé complexe, en raison des relations complexes entre les Autochtones et les Canadiens. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qui peut tendre à changer, là. Ouais.
En Europe, on se pose de plus en plus la question d'une meilleure représentativité de la diversité, comme on dit, dans les salles de rédaction, du fait d'avoir des journalistes venus d'origines sociales, géographiques, etc., différentes. Est-ce que c'est aussi une question ici, au Québec ?
Oui, ben c'est clair. Je pense que dans la plupart des sociétés occidentales, c'est des questions, là, surtout que le Canada est une terre d'immigration, une terre d'accueil. Donc, c'est quelque chose de très présent.
Mais sur les questions autochtones et sur la représentativité des autochtones dans les salles de rédaction, c'est une question ou pas?
C'est une question, c'est clair. J'allais y venir, en fait, parce que il fallait que je parle de l'immigration et de l'équité, parce que nous, c'est ce qu'on appelle des programmes d'EDI. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, là, équité, diversité, inclusion. Donc, on met tout dans le même programme, par exemple, l'inclusion des personnes immigrantes de différentes cultures, de différentes... par exemple, la communauté LGBTQ et tout ça. Donc, et tout ça, ça va être dans un même programme et on inclut aussi les Autochtones là-dedans, ce qui, à mon avis, pose problème. parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Je peux comprendre l'idée derrière, parce qu'ils vivent des réalités qui sont similaires, des fois un manque de représentativité, un manque d'inclusivité historique et tout ça. Donc, ils vivent des problématiques qui sont similaires, mais qui sont pas du tout créées par la même chose. C'est pas parce qu'ils tentent d'intégrer une nouvelle société, au contraire, tu sais, c'est parce qu'ils sont la société ici qui a été minorisée avec le temps. Donc, c'est très, très complexe, ces questions-là. Et ici, en fait, au Québec, il y a... à Radio-Canada, on est partout au Canada, même si on est principalement au Québec, évidemment, avec la majorité francophone du Québec, mais on est quand même présent partout au Canada pour toutes les communautés francophones du pays. On est environ 3000 employés. Puis aux dernières nouvelles, je crois qu'on est 8 autochtones. Donc, ce qui est beaucoup moins que le pourcentage de la population qu'on est, et par comparatif à CBC, qui est le pendant anglophone de Radio-Canada, pour à peu près le même nombre d'employés, 3000, ils sont près de 100 autochtones, un peu plus que 80, si je ne me trompe pas. Donc, on voit quand même qu'il y a un débalancement, et alors qu'il y a quand même 11 nations autochtones, dont peut-être, je dirais, 7 ou 8 qui sont francophones ici au Québec. Mais je parlais tout à l'heure de l'isolement de ces communautés-là, et c'est compliqué, et on pourrait en parler avec mon rédacteur en chef qui tente de recruter aussi des personnes autochtones pour travailler à Espace autochtone. En fait, les journalistes autochtones, francophones, c'est une denrée rare au Québec, et je pense que la plupart des salles de nouvelles en cherchent.
Merci Jérôme Guilcouture.
Ah, ça m'a fait plaisir.
Et à bientôt.
À bientôt.
C'était Jérôme Guilcouture, reporter spécialisé en questions autochtones à Radio-Canada. Un entretien enregistré mi-mai 2024 au Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer au Québec. Nous voilà à la fin de l'Atelier des médias, une émission de radio diffusée d'abord en balado-diffusion et dans une version plus longue. Affranchis de la contrainte du temps, on peut aller encore plus au fond des choses en podcast, oui. Vous nous trouverez chaque samedi sur l'application d'écoute de votre choix. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou à poster un commentaire pour que l'Atelier des médias soit davantage visible et, on l'espère, encore plus écouté. Simon Decreuse a, comme chaque semaine, réalisé l'émission. Merci à lui. Pour toute remarque, envoyez-nous un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.
RFI.
Merci d'écouter RFI. Avant de poursuivre nos programmes, écoutons le duo Rosé, qui est l'une des révélations musicales de Radio-Canada de l'année 2024. L'habitude est extrait de l'album Virer nos vies, et il est sur la liste de diffusion de la Radio Mondiale. Rosé.
À quoi tu penses? Au pire moment, tu perds ta chance. Accroché sur la caméra, revue l'été, on dirait ce qu'on voudra, la ligne est fine, ouais. C'est pas toi, j'ai pas envie de personne. Si ça te tente, on peut se voir à chaque mois, à chaque fois que ça t'adonne. J'essaye, je te jure, mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai peur, peur, peur de te perdre, mais j'ai pas encore l'habitude. Je pense pas encore que je t'aime, mais je vais pas faire la vie dure. Arrête, s'il faut se parler comme ça, te voulu voir, on fait des plans que pour toi. J'ai pas encore l'habitude. Facile d'être seule si t'es jamais manqué d'amour. Si tu t'étasses, casse dès que ça dérape, que tu veux partir à zéro. C'est pas grave, c'est fini. Mets-toi là, j'irai pas faire le tour de l'île pour me faire crisser le cet hiver. Non, j'ai des mi-sommets. Et à côté sur le mur, en chaîne de fusil, pas le mal. Je pourrais m'y faire, c'est sûr. Mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai peur, peur, peur de te perdre. Mais j'ai pas encore. Je pense pas encore que je t'aime, mais je veux pas faire la bisoule. Arrête, s'il faut se parler comme ça, te voulu voir, on fait des plans que pour toi. Mais j'ai pas encore l'habitude. Mais j'ai pas encore l'habitude.